you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Thunberg, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Daniel Finot. Et autour de moi, ce soir, Lucille Como, Raphaël Léris et Laurent Nunez pour parler ensemble du livre de Delphine de Vigan, Les Loyautés, publié chez Jean-Claude Lattès. Le livre de Frédéric Siriez, Betty Book chez Vertical. Et celui de Vincent Almendros, Faire Mouche aux éditions de Minuit. Boris Pinot est là, qui surveille déjà son écran sur lequel s'affichent les fils Twitter et Facebook de la dispute pour donner à entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour La double inconstance ou presque de Marivaux. Mise en scène Jean-Michel Rabeu. Des places à gagner pour lundi 5 mars à 20h au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau roman de Delphine de Vigan, auteur multiprimé pour ses livres précédents « Rien ne s'oppose à la nuit » et « D'après une histoire vraie ». Celui-ci s'intitule « Les loyautés ». Il va s'intéresser à Théo, élève de 5e, à ses parents, à son ami Mathis et les parents de celui-ci, et également à Hélène, sa professeure de biologie. Alors, ce qui est déjà pratique avec le livre de Delphine de Vigan, c'est quand on lui demande « Pourquoi ce titre, Les Loyautés ?» Eh bien, c'est la première page que je vais vous lire. Les Loyautés, ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho. Des fidélités silencieuses, ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes. Des mots d'ordre admis sans les avoir entendus. Des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Bon, après, l'histoire commence, si je puis dire, et va alterner les chapitres qui auront pour titre les noms des personnages principaux d'Eddie Chapitre. Voilà pour la façon dont ça s'agence. Raphaël Léris commence cette dispute sur ce livre de Delphine de Vigan.
Très bien, Arnaud Delaporte. Alors, avant de commencer la conversation, on peut essayer de définir le périmètre de ce texte, dont je pense qu'il faut dire que c'est un roman modeste, qui se présente comme tel, que Delphine de Vigan a voulu tel. Ça n'est pas un grand roman très ambitieux.
Quand vous dites qu'il se présente comme tel,
c'est-à-dire c'est un texte court de 200 pages, je crois.
Mais c'est pas la. Oui, non, ça m'avait échappé, mais non, mais je ne sais pas ce que c'est un roman qui se présente comme modeste.
pour moi, dans sa présentation littéraire, cette alternance des voix, donc qui est un retour pour Delphine de Vigan à ce qu'elle faisait avant Rien ne s'oppose à la nuit. Voilà, c'est un projet dont il me semble qu'il est petit, disons modeste plutôt, qu'elle l'a voulu comme tel, et donc je pense qu'on peut recevoir comme tel, qui n'est pas pour elle ni pour le lecteur, hein, comme d'après une histoire vraie qui avait une ambition romanesque qui se voyait immédiatement et qui faisait sa force, son intérêt ou sa faiblesse selon la manière dont on le recevait. Donc voilà, donc les loyautés, voilà, c'est pour Delphine de Vigan une manière de revenir dans son sillon littéraire après deux textes qui travaillaient sur la question autobiographique, deux textes au succès extraordinaire. Et donc, pour moi, les loyautés, c'est un livre qui vaut d'abord pour la tension sur laquelle il repose, sur la tension qu'il instille, sur laquelle il tient. Et pour moi, voilà, de ce titre très évident avec cette page explicative que vous disiez jusqu'à la dernière page, il y a une simplicité qui fait sa force, et pour moi en tout cas, et qui en fait un livre intéressant. On a pu le présenter comme un livre social ou sociétal qui nous parlerait du mal-être des adolescents, des enfants divorcés et de ceux qui boivent trop. Donc pour raconter un petit peu l'histoire, il y a Théo et Mathis qui sont donc des copains de 12 ans et demi, ils n'ont pas encore 13 ans. Théo a des parents divorcés, Mathis a des parents qui sont ensemble sans doute pas pour très longtemps encore, et Théo trimballe un mal-être qui se repère immédiatement, en tout cas que sa professeure de biologie, Hélène, qui a été une enfant battue, voit et repère, et en fait... quand il a le temps, avec son ami Mathis, ils vont boire une cachette dans leur collège. Voilà, et personne ne veut rien voir, d'après Hélène, qui donc a repéré des signes dans ma lettre. Mathis voit son copain s'enfoncer dans une recherche de l'ivresse de plus en plus intense et a du mal à suivre. Il y a donc, parmi les adultes, outre Hélène, Cécile, la mère de Mathis, qui, elle, voit que son fils déconne un petit peu, en tout cas, excusez-moi, sort du droit chemin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son ami. Voilà, et elle-même est préoccupée beaucoup par l'état de son mariage, avec William qui s'enferme tous les soirs dans son bureau, mais pourquoi faire ? Donc, tout nous est distillé petit à petit à mesure que les personnages parlent. Alors, les adultes parlent à la première personne et les enfants sont à la troisième personne, ce qui permet à Delphine Vigan de ne pas singer une voix d'adolescent et de décrire plus précisément ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Je trouve ça plutôt bien de pas avoir, de pas s'être engagé sur la voix
De limitation.
De limitation, voilà. Elle l'avait fait pour Noé et moi, et moi, j'avais pas été forcément convaincue par ce texte-là. Et donc, je trouve ça bien que pour les loyautés, elle n'emprunte pas ces voix-là. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire pour ce texte qui
pour
moi,
sa
donc,
présentation.
M'intéresse, pour l'attention qu'il instille du début à la fin.
Lucille, comment premier regard sur ce livre de Delphine de Vigan ?
Oui, alors pour parler de cette construction, en effet, on a l'impression, dans un premier temps, d'un roman polyphonique. Et moi, je trouve que c'est une des premières faiblesses du texte, c'est qu'en fait, ces quatre voix, elles sont pas vraiment différentes. Ce sont pas des points de vue. Et que, en fait, le point de vue, il est tout à fait unilatéral sur cette histoire, puisque, comme vous le disiez, et peut-être que c'est en effet un choix bienvenu de ne pas avoir voulu faire parler des adolescents, mais du coup ces jeunes garçons, que ce soit Mathis ou Théo, je crois que c'est encore pire pour Mathis, on ne les atteint pas vraiment, ce sont des figures auxquelles on a un petit peu du mal à s'attacher, et je trouve que c'est problématique dans la mesure où je pense que c'est un texte qui veut nous attacher à ces personnages-là et qui ne joue, à mon avis, que sur une chose, c'est sur cette corde sensible du pathos qu'elle veut nous faire tirer. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué de ne jouer que là-dessus, surtout sur ce sujet-là. Je trouve ça même limite un petit peu malsain. Je trouve que vous parliez de simplicité, moi je parlerais de simplisme, voire de simplification, notamment sur... ça se veut quand même un récit ancré dans le réel. Toutes les analyses, pseudo-analyses sociologiques sur les parents, sur par exemple ce personnage de... d'Hélène qui parle de son père et de sa mère, de la manière dont elle a évolué. Elle ne dit plus manger, mais déjeuner ou dîner. Enfin, c'est distillé par tout petit bout de clichés qui, à mon avis, posent problème quand on veut faire un roman sur ça. Et je trouve que même... je trouve que la lecture en est désagréable dans la mesure où elle nous met dans une posture d'accepter quelque chose d'assez malsain et d'avoir envie de lire la suite pour des raisons qui sont, à mon avis, de mauvaises raisons de lecture. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais moi, je me sens un petit peu dégradée et salie, c'est un peu fort. Mais il y a quelque chose de ça, je trouve, dans la lecture, dans la lecture de ce roman. Bon.
On reviendra vers vous, Laurent Nunez, sur Delphine de Vigan et ce livre « Les loyautés ».
Ouais, bah c'est un... alors c'est vrai que c'est un livre qui ne paye pas de mine, qui est c'est-à-dire superficiellement et même profondément, mais en même temps il a c'est très étrange avec ce livre. J'ai du mal moi-même à savoir si je l'aime bien ou si je vais l'oublier dans à peu près 3 jours. Disons qu'en tout cas il y a quelque chose qui tient de la gageure et qui est assez étrange, c'est que c'est un roman choral sur des silences. Et ça, il fallait le faire. Soit en même temps, ou alors c'est la grande falaise du livre. C'est parce que le livre est raté à cause de ça aussi. C'est un roman où plusieurs personnes sont là, et pourtant, elles ne peuvent pas discuter. Alors, le livre est intéressant dans la tension qu'il y a. C'est assez court. On est pris dans ce problème, mais il a un défaut majeur. En fait, c'est qu'il est même trop court. Le grand problème, c'est que, en tant que récit multicoral, enfin, en tant que récit choral, polyphonique, j'allais dire, c'est-à-dire avec plusieurs voix qui viennent, même si c'est vrai, on les distingue pas vraiment stylistiquement, le livre s'arrête en plein milieu d'une action, et de l'action d'un seul personnage. Et en fait, on comprend qu'en fait, c'était pas du tout un roman choral. Visiblement, Delphine de Vigan ne s'intéresse qu'à ce personnage-là, le Théo. Et tous les autres sont comme ça évacués. Point à la ligne, on ferme, c'est la fin du livre. C'est très étrange pour un roman choral de s'arrêter juste au moment où il arrive une action intéressante. Intéressante, c'est un peu compliqué parce que ça finit mal. Voilà, je tiens à dire que c'est un livre. Je sais pas si c'est un livre pour l'hiver. Hein, c'est un livre très noir. C'est un livre déprimant. Alors. Du coup, le grand problème, c'est ça. C'est est-ce que c'est un livre cliché sur les divorcés, sur les enfants de divorcés qui souffriraient affreusement et qui se réfugieraient dans l'alcool, etc. et tout. Je sais pas. Disons que comme c'est un livre et qu'il est publié, il met en avant cette vision-là du divorce.
Voilà. Oui, enfin ça c'est un des aspects, hein, parce que la vie des parents comptent aussi. Alors, bon, pour alterner un peu, bon, même si on n'est pas tout à fait sûr de votre sentiment, Laurent, pour alterner un peu les points de vue, moi, c'est vrai que je me demande si ce n'est pas l'auteur qui est trop court, à vrai dire, parce que j'ai oscillé en lisant entre un rire qui est pas un rire voulu par l'auteur, mais parce que je trouvais vraiment les tournures de phrases et les effets extrêmement lourd, et puis une sorte de gêne que je partage un peu avec Lucille Como, qui est liée vraiment à la fabrication du texte. Ce que vous disiez tout à l'heure dans votre introduction, Raphaël, qu'on l'a présenté parfois comme un roman sociologique, le fait est qu'on a quand même des typologies. On a parlé de ces enfants divorcés, on a parlé de cette femme qui était une enfant battue, on n'a pas parlé d'un des pères, si je puis dire, qui est en voie de clochardisation, l'autre qui fait des choses dans son bureau la nuit qu'on ne dévoilera pas ici pour ne point divulgâcher. Mais en tout cas, je sais pas ce qu'il y a dans la tête de Delphine de Vigan quand elle écrit ce livre, mais moi je ressens ça comme une forme presque de cynisme à s'emparer de sujets pour comme ça un peu les décliner, mais de façon effectivement trop courte, parce que pour moi, vous demandez Laurent Nunez si ce qu'elle fait des clichés, pour moi ça ne dépasse pas, parce que justement il n'y a pas d'épaisseur aux personnages, ils sont tous caractérisés par un fait biographique, et on s'en tient là, ce qui est quand même très peu pour caractériser quelqu'un. Je trouve que ça manque de complexité, de richesse, de vie, quoi, tout simplement. Et je trouve que ça ne décolle pas, en fait, que ça reste vraiment, surtout pas l'écriture, que ça reste vraiment très, très en deçà de ce que moi j'ai envie de lire dans un roman. Raphaël Néris.
Alors moi, je ne partage pas votre point de vue sur l'absence de profondeur des personnages. Pour moi, elle travaille sur la question des doubles qui existe dans son travail et qui s'accumule dans D'après une histoire vraie. Mais là, alors d'abord avec le thème de la loyauté, donc il y a en permanence derrière les adultes l'enfant qu'ils ont été. Bah oui, enfin alors en tout cas sur moi ça fonctionne, la manière dont elle fait exister cette ombre derrière les femmes adultes que sont devenues. Cécile et Hélène, même si j'entends bien que sans doute la rapidité qu'elle a donnée à ce texte fait qu'on peut trouver, enfin oui, qu'il y a une dimension cliché à la manière dont elle les présente, mais pour moi la manière dont elle joue sur cette question du double via la question de la loyauté et la manière dont elle travaille la question de la violence, qui nous habite, de celle dont qu'on contient en soi, de celle qui a été exercée sur chacun, qu'elle soit symbolique ou physique, donne un plus d'épaisseur à mon sens que vous n'en avez trouvé. Après la question du malsain que soulevait Lucille, la question c'est à quel point on lit des romans avec des intentions excellentes. Qu'est-ce qui fait que la littérature doit être l'intérêt du lecteur doit être maintenu par des bons sentiments, je sais pas, ou par une espèce de pureté dans la manière dont on aborde une histoire, un fait divers, pourquoi on lit des textes, des thrillers. Ça, c'est une question plus large, je pense, que celle de...
Peut-être une réponse,
non, mais sur ce point. Je me suis probablement mal exprimée, parce que ça, oui, bien sûr, c'est une vaste question. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est très artificiel. Je trouve qu'on voit les ficelles de cette tension-là, de ce qu'elle veut nous faire comprendre et de ce qu'elle veut nous faire ressentir pour ce petit garçon. Et c'est pas ce qu'elle veut nous faire ressentir pour lui qui me gêne. C'est tout l'espèce de dispositif qui est mis en place par l'écriture, en fait. C'est vraiment un truc stylistique là que
j'ai essayé de toucher. Oui, je vous rejoins là-dessus, ce que je disais tout à l'heure sur la fabrication. Je pourrais presque trouver ça malsain, mais comme projet d'écriture, si vous voulez, comme projet romanesque, pas du tout les sujets, mais la façon, ce que j'ai essayé de dire peut-être aussi maladroitement, dont un auteur peut s'emparer de sujets, d'archétypes pour nous faire pleurer, ou pour nous attendrir, ou pour nous effrayer, je ne sais pas.
Raphaël, pardon, je ne les prends pas comme des archétypes. Est-ce que alors, je n'ai pas l'impression qu'elle a voulu prendre des sujets de société. Pour moi, ce sont des individus qui existent en tant que tels.
On peut les énumérer quand même.
Bah oui, qui seraient donc le divorce, la garde alternée, le binge drinking. Comment traduire binge drinking chez les adolescents? Ouais.
La boisson à foison.
La boisson à foison. Voilà. Ouais. Et la violence sur l'internet mondial, voilà, qui serait.
Sont quand même des sujets qui font des pages de journaux quand même. Hein.
Oui, sont des sujets. Oui, bien sûr. Mais pour moi, elle veut pas les traiter au-delà des personnages. Et d'ailleurs, la dimension, cliché, vous dites, ou moi je pourrais dire un peu irréel, de par exemple du fait que William dans son bureau, il écrit le brouillon de son. En fait, il écrit des posts de blog. Hein, je dis vulgaire. Il écrit à la main des brouillons de ces postes, pour considérer que c'est absolument irréel d'écrire à la main. Donc pour moi, je ne peux pas le prendre comme un archétype de quoi que ce soit. Voilà, pour moi, ils existent.
Moi, je vois les sujets, mais je ne vois pas les personnages qui vont avec. Je vois des personnages qui sont inventés pour pouvoir parler du sujet. En fait, c'est plutôt ma lecture, en tout cas, et celle-ci. Laurent Nunez.
Oui, je me rends compte que je suis complètement prophète, parce que en fait, j'ai déjà oublié le livre. Donc,
En trois minutes, et non pas en trois jours. C'est à force de nous entendre en parler que vous l'oubliez, c'est agréable.
Il m'en reste peu. Peut-être juste le personnage d'Hélène, qui est persuadée que de voir les enfants battus, parce qu'elle est elle-même battue, c'est la seule idée. Non, mais ce qui est intéressant, c'est un narrateur qui se trompe. C'est toujours ça qui est intéressant. C'est tout.
Oui, mais comme elle nous le donne dès le départ.
Ah oui, je sais.
Je vous apprends.
On y est presque.
Ouais, c'est un peu compliqué. Boris Pinot, quelques commentaires quand même avant de conclure cette page. Delphine de Vigan.
Oui, un message de Violette Villard sur Facebook. Delphine de Vigan déploie à l'intérieur d'une construction magistrale, d'une fluidité étourdissante, une sensibilité analytique et une acuité pour la psyché humaine remarquable. Son écriture est d'une simplicité et d'une limpidité qui font presque oublier sa maîtrise des profondeurs et la densité des questionnements que ces livres éclairent. Ferveur et émotion grande à lire cette Delphine Freud de Vigan, un mot d'Henri Knouri sur Twitter. À vif, à l'essentiel, un roman dur comme sait le faire l'auteur. Et toujours sur Twitter, Poulain écrit sur une histoire douloureuse qui prend aux tripes, nous met en colère, la gorge nouée. Il faut vite tourner les pages pour espérer la rédemption, un coup de cœur.
Vous avez plein de pseudos, Raphaël.
Est-ce que vous m'avez dit ça? Oui. Bon,
non, non.
À aucun moment,
non, non,
aucun moment magistral ni éblouissant n'a été prononcé.
Bon, ben, je le note alors. Les loyautés de Delphine de Vigan chez Jean-Claude Lattès à suivre dans la dispute Frédéric Siriez et Vincent Almendros.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la littérature avec le quatrième roman de Frédéric Siriez, Betty Book, où l'on va rencontrer Stéphane Sorge, pigiste au Monde des Livres, chroniqueur sur Paris Première. Il écrit dans d'autres journaux sous d'autres pseudonymes, membre des différents prix, jurys, commissions, etc. Un critique installé, même s'il semble quelque peu en perte de vitesse quand le roman débute. Il est envoyé en reportage dans un salon de booktubeuses où il va rencontrer Betty Book.
Vous lisez en moi comme dans un livre grand ouvert. Toudoudou. Je me sens sur la défensive, transparente, linéaire. Je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Un zeste de bluff suffit-il pour trouver vos clés? Quand on surfe par les vagues sans cesse à vous ne mettez pas vos points sur mes i. Je suis en manque d'a priori. Vous ne me dites les noms.
Il ne s'appelle pas Stéphane Sorge, mais Stéphane Van Ham. Il a choisi ce nom de plume pendant ses études, alors qu'en 2003, il commence à collaborer au Pélican Lettré, une revue littéraire lilloise. Son patronyme se réfère discrètement au Très-Haut, roman où Maurice Blanchot met en scène un certain Henri Sorge, souci en allemand. En 1948, année de publication du Très-Haut, la philosophie heideggerienne dominait en France et trouvait des échos chez quelques écrivains préoccupés par le souci de l'être. Henri Sorge porte le nom d'une inquiétude. Stéphane Sorge devient le nom d'un critique littéraire de 21 ans. Un dimanche, il rend visite à son père veuf, directeur d'école primaire à la retraite, dans un quartier résidentiel de Lille. Le soir, avant de reprendre son train, il regarde France 3 et découvre qu'une de ses petites amies du lycée, ancienne collaboratrice du Pélican Lettré, est devenue présentatrice du JT régional. En 2016, on lui propose d'écrire l'autobiographie de Jérôme Cahuzac, le ministre déchu. Entre parenthèses, rire. Il se demande pourquoi on pense encore à lui pour ce type de livre. Entre parenthèses, colère. Il se regarde dans un miroir, aperçoit ses tempes dégarnies qui mériteraient quelques implants capillaires, spécialité de Cahuzac dans le civil. Entre parenthèses, larmes. Rire, colère et larmes, trois émotions contenues dans une même goutte d'eau, dit le sage chinois Wang Li, 744-805. C'est lui qui a découvert Frédéric Siriez. Voilà pour cet extrait, plutôt au début, de Betty Book, où on va faire connaissance avec ce personnage. On connaîtra ensuite Betty Book. Et c'est Lucille Comeau qui commence à nous parler de ce livre.
Oui, alors moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire et qui a quelque chose de très énervant. Tout ça est très lié. Donc, c'est truffé de références. On l'a un petit peu entendu dans ce que vous venez de lire. C'est constitutif. Donc, je vais commencer par là, constitutif du livre. C'est évident tout de suite puisque ça commence par une référence aux vidéos de Norman, fausses funérailles de Norman qui sont comparées à celles de Victor Hugo.
C'est pas Norman Mailer, hein, c'est Norman non, de Norman,
Norman
fait des vidéos.
Norman fait des vidéos, voilà, qui est un comique qui fait des vidéos sur YouTube. Donc c'est un personnage de loser qui gravite dans un monde que nous on connaît bien, qui est celui de la critique culturelle et qui est confronté à un monde que moi par exemple je connais nettement moins bien, qui est celui des booktubeurs, qui sont en fait des booktubeuses puisque c'est quasiment que des femmes, ça c'est aussi dans le vrai dans la réalité. Donc pour moi il y a déjà un intérêt qui est l'intérêt un peu documentaire et qui m'a poussé d'ailleurs à aller voir un peu des vidéos sur internet, ce
donc
que j'avais jamais fait.
Sont des
voilà, qui sont des lectrices anonymes au départ et qui lisent lisent, qui font des comptes rendus de livres et qui finissent par devenir parfois vraiment des stars et qui se font envoyer les livres en service de presse et qui ont des milliers, parfois des centaines de milliers de vues sur leur chaîne YouTube. Donc, on s'intéresse à ça parce que c'est une sorte de, voilà, c'est une transformation de la critique littéraire qui est là. Donc, déjà, de ce point de vue-là, je trouve ça assez intéressant de découvrir ce milieu-là. Après, sur ce côté entre soi et le côté un peu de la blague bien sentie et de la private joke en bon français, ça m'a gênée au départ. J'avoue que j'ai même failli abandonner la lecture à cause de ça. Et en fait, on est pris assez vite dans une telle abondance de ces références-là que finalement, dans le tourbillon des noms d'éditeurs, des noms de critiques, etc., on finit par se ficher absolument de si c'est vrai ou de chercher. Enfin, le travail de décodage, au fond, il n'est pas intéressant. Et le récit, qui est vraiment, qui a une puissance, moi, je trouve, assez forte, un vrai enthousiasme dans l'écriture, nous prend, puisque le côté thriller, moi, je trouve, fonctionne extrêmement bien, puisqu'on sait assez rapidement que ce Stéphane Sorge, il ne va pas vouloir que du bien à la fameuse Betty Book qui l'énerve de plus en plus. Donc, ce côté thriller, moi, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien, qu'il est très bien amené. La fin de ce point de vue est, à mon avis, brillante. Voilà, je trouve que c'est un roman vraiment. Enfin, c'est jouissif de lire ça, quoi. C'est très enthousiasmant.
Oh, jouissif. Alors, Betty Book, elle aime bien les romans, notamment, dont vous êtes le héros. Et là, Raphaël Léris, vous pourriez être une héroïne, puisque on a la chef du monde des
chef
livres.
Adjoint.
Non, mais. Dans le livre,
ah, dans le
la
livre,
chef.
Oui.
Non, je pense la que chef. C'est inspiré par vous, à bien l'évidence. Sûr. Même si le nom est différent dans le livre de Frédéric Siriez. Alors, vous, comment l'avez-vous reçu, ce texte Betty Book?
Évidemment, on est très excités quand on est cité dans un ouvrage. Frédéric Siriez, c'est un auteur que j'aime bien, que je suis depuis Des Néons sous la mer. Donc, son premier roman, qui était sur la prostitution, qui était vraiment une réussite comme entrant en littérature. Et depuis le début, il y a quelque chose qui est amusant et parfois irritant chez lui, qui est sa capacité à s'auto-faire marrer. Enfin, on sent en fait qu'il écrit et qu'il est là au départ pour se faire rigoler. Donc, il y a un moment où ça peut être un petit peu excluant. On se dit, bon ben, c'est super, tu rigoles bien. Mais est-ce qu'on n'oublie pas un tout petit peu en chemin le lecteur, l'intrigue, la crédibilité des personnages? Bon, alors là, visiblement, il a décidé que la crédibilité des personnages, c'était pas tellement son sujet. Voilà, parce que donc je peux vous assurer qu'il n'a pas fait un grand reportage au monde des livres pour savoir comment se passaient les commandes de papier. Alors que je crois qu'il a passé un petit peu de temps avec des booktubeuses. Comme quoi. Donc moi, c'est un livre que je trouve porté par son énergie, que vous soulignez, Lucille. Voilà, qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qui fait qu'on va jusqu'à la fin. Même si, donc, moi, à un moment donné, je me dis, mais qui ça peut intéresser, à part nous, ici, dans ce studio, de savoir quel est l'avenir de la critique, de lire des comptes rendus d'émissions de radio sur Radio Libertaire, entre donc Stéphane Sorge et Gérard Genette, qui se demande si la critique est dans un état critique.
La critique est-elle dans un état critique?
Voilà.
C'est quand même une bonne émission, ça.
Sacrée question. Donc, en fait, je trouve qu'on oscille entre c'est amusant et en même temps... À quel point c'est intéressant, ça, je ne sais pas. Alors, il interroge de manière assez intelligente, je trouve, ce que c'est que la mise en scène de soi qui est en train de prendre le pas sur la question de la critique, de la réception, du fait qu'il faut être un corps plutôt qu'un lecteur, que c'est en train de prendre de plus en plus de place. Il y a quelque chose dans ce texte où je vois bien un espèce de soubassement, donc les références qui sont affichées ça très clairement, mais qu'il y a aussi une réflexion sur une manière de renouer avec la littérature qui doit être scandale et qu'au fond, Stéphane Sorge, qui commence en disant, je crois qu'il ne veut plus supporter la littérature ou il ne supporte plus la littérature et que ça va être que l'histoire qu'il va lui arriver avec Betty Book va être un moyen de renouer avec son goût pour la littérature. Donc ça, je vois bien le soubassement théorique. Est-ce que ça suffit à me convaincre de la force de ce texte au-delà du plaisir? Pas forcément. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Enfin, intéressant.
Ouais. Non, enfin intéressant, trois petits points. Un livre tombe, c'est celui de Frédéric Siriez, ouais. Non, c'est le casque. Alors là, on va bien le ranger sur sa table. Premier regard de Laurent Nunez sur celui de Frédéric Siriez, Betty Book, chez Vertical.
Moi, c'est un livre qui quand même m'a fait assez rire. C'est un livre. Alors en effet, ce qu'il y a d'amusant avec Frédéric Siriez, c'est qu'il cherche l'amusement. c'est pas forcément un humour, c'est pas un humour très fin, c'est pas, mais c'est pas grave, c'est pas, pour moi c'est pas
non,
un grand défaut.
Moi non plus c'est pas un défaut, mais c'est vrai que c'est pas un humour très fin, je vais pas vous contredire.
Mais voilà, il y a des choses assez drôles, alors c'est liste, parce que, comment vous dire, c'est assez bien pensé, c'est assez bien construit. C'est l'histoire quand même d'un intello précaire. Qui est un peu précaire et qui est à la fois ce que Proust appelait un célibataire de l'art, c'est-à-dire qu'il côtoie l'art toute la journée sans jamais rien faire. Il rêve d'écrire, visiblement, à la fin, il essaye, mais voilà. Et cet homme est embourbé dans toutes les rentrées littéraires qui arrivent. Un livre chasse l'autre. Il ne sait pas comment faire. Il tombe. On a l'impression qu'il est en train de tomber.
Cette phrase, hein, elle aimerait monter, il descend.
Oui. C'est ça, ouais, mais voilà. Il tombe et en même temps, mais personne ne le voit. Il est invité partout. Il a une émission à Paris Première, alors une petite chronique de 30 secondes par là ou 2 minutes. Voilà. Quand il trouve une phrase assassine ou une bonne phrase, on la met en quatrième de couve. Il représente quelque chose, mais en même temps, il sait qu'il est rien. Il flotte, il est à la surface des choses. Et la preuve, c'est que si on le reconnaît dans les cocktails, bah, son compte en banque est commence à être creux. Et de l'autre côté, il y a la booktubeuse, Becky, qui sait l'inverse. Lui, on ne le voit jamais, on le lit. Elle, on la voit tout le temps. C'est l'inverse, elle représente quelque chose, un corps. D'ailleurs, le corps est très important, elle est très organique, on pourrait dire ça.
Ça renvoie vers une scène centrale, voilà, très organique.
Voilà, c'est pour ça que j'y repensais. Donc voilà, elle représente ça, elle a beaucoup plus, elle a à peu près 50 000 ou 40 000 au début, 40 000 visiteurs uniques.
Abonnés à sa chaîne.
Voilà, ce qui serait beaucoup mieux que ce que lui a en tant que lecteur qui voudrait juste lire cet article à lui. Donc elle a la notoriété. Elle, une sorte d'autorité étrange, mais elle en a ses débuts, elle gagne pas d'argent. Et il sent bien, hein, que les deux courbes vont se croiser. Et voilà, il décide comme une sorte de vampire de voir s'il peut se nourrir d'elle. Moi, j'étais assez séduit par la première moitié du livre, qui est très bien fait, avec une sorte de narrateur très neutre. Et franchement... ça se lit bien, il y a des vraies questions, il y a un vrai questionnement... J'avoue que peut-être je me suis un peu retrouvé dans ce Stéphane Sorge envahi.
Mais vous n'avez pas raté le train du salariat, Laurent
Non, 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 je suis pas, non, j'ai fait mieux, je suis parti des journaux, vous savez.
Ouais.
Mais donc voilà. Et le seul truc qui va pas, c'est un problème narratif. C'est la seconde partie du livre. Vous savez, un problème.
La troisième,
c'est,
non.
C'est la troisième partie, ouais, c'est celle qui décrit le procès.
Un procès.
Voilà,
on
le
dira
procès,
pas pourquoi.
Voilà, l'enquête et tout. Tout d'un coup, la narration s'arrête et elle est imitée de la réalité. On se retrouve avec des pièces d'un dossier judiciaire.
Ouais, articles de presse, communiqués de, voilà, lettres d'avocat, etc.
Voilà, complètement. Alors, du coup, voilà ce désir mimétique, on pourrait dire, pour moi, gâche un petit peu. La littérature, vous savez, alors c'est un principe qui revient beaucoup et qu'on retrouve par exemple très souvent dans les livres, par exemple de Nina Yarjekov, qui a eu le prix de Flore il y a 2 ans. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut tout d'un coup arrêter de faire la littérature et à la place remplacer le réel, remplacer par du réel fixe. Alors du coup là, il y a des procédures.
C'est complètement parodique, c'est n'importe quoi. Le procès verbal, etc. J'imagine que c'est pas comme ça, un procès verbal. C'est complètement fantaisiste. Enfin, tout est réinventé. Il y a des blagues.
Je suis pas sûr.
Bon, l'auteur à succès qui a appelé à la barre à témoins et qui dit. Je le défends, et puis d'ailleurs, ce sera le sujet de mon nouveau livre à apparaître aux arènes. Enfin, franchement,
non,
je pense
une
pas.
Déposition,
je pense que c'est complètement fou. Enfin, je ne suis pas sûr que.
C'était pas dans le tribunal.
Que
ça,
la fiction s'arrête à ce moment-là, en tout cas.
Ouais.
Non, la exemple, fiction continue, mais par exemple, moi, il y a une chose qui m'a fait rire, mais on se demande du coup de quel côté penche l'auteur par rapport aux deux protagonistes principaux. Mais quand on voit le comité de soutien à Stéphane Sorge, une fois qu'il est accusé de. On va dire de prédation sexuelle, on va dire ça comme ça, parce que ça, mais Betty Book est accusée d'autre chose. Dans les signataires, on voit quand même qu'il y a Georges Tron, Denis Baupin, Roman Polanski, les membres du jury du prix SAD, c'est la moindre des choses, Marc-Edouard Nab. Donc on se dit, bon, si c'est ce comité de soutien-là, on demande de quel côté Frédéric Siriez, pas très longtemps. Mais c'est vrai que pour enchaîner sur ce que vous disiez, Laurent Nunez, moi, c'est assez amusant ce soir. On a 3 livres qui sont faits pour être lus d'une traite, me semble-t-il. Ce sont des livres qu'on ouvre, qu'on ne lâche pas, d'une part, parce qu'on peut ne pas en avoir envie, parce qu'ils sont bien faits. Mais enfin, ce sont des livres qui avancent, en tout cas, les trois. On va parler de Vincent Almendros tout à l'heure. Celui-là, je suis d'accord, très plaisant à lire. Je ne parlerai pas de chef-d'œuvre total, mais j'ai trouvé assez finement fait. Moi, j'ai bien aimé, au contraire, cette troisième partie faite de documents divers, parce que la fantaisie subsiste et qu'il y a quand même énormément de fantaisie chez Frédéric Sériès et qu'il n'est pas tout seul à rire de son écriture. Moi, j'ai pas mal souri en le lisant et que c'est pas une lecture absolument indispensable. Je ne dirais pas ça de Betty Book, mais si on veut prendre plaisir à lire, parce qu'entre différents textes que nous lisons les uns et les autres et nos auditrices et auditeurs, une lecture plaisir, celle-là en fait partie, me semble-t-il, Lucille Como.
Oui, puis il n'y a pas qu'une... il y a du potache, mais moi je trouve que c'est pas un livre... Non. Que léger, c'est-à-dire que la satire, elle fonctionne à plein, elle est aussi assez cruelle par endroits, et elle est en effet cruelle envers les deux protagonistes, c'est-à-dire vous disiez, on ne sait pas, la balance, elle n'est pas... En effet, ça oscille en permanence, tout le monde est attaqué, et au final, il y a quand même, je trouve, à la fin, une forme d'amertume ou de nostalgie qui laisse entendre que ce n'est pas qu'une blague.
Non, il est très réaliste, oui, hein, à bien des égards.
Oui, et puis même au niveau méta-texte, enfin, au niveau un peu théorique, vous parliez, Raphaël, de ça, le fait que ce personnage de Betty Book ne lise que des dystopies, en fait c'est une dystopie, enfin, Frédéric Sériès écrit une dystopie puisque c'est censé se passer, je sais pas, en 2020 ou quelque chose comme ça, quelques années quelques années après aujourd'hui, donc il y a ce côté un peu science-fiction et apocalyptique, puisque en effet c'est la fin d'un monde qui advient par la technologie. Du coup je trouve qu'il y a quand même une réflexion, de la même manière ce personnage lit nouveau détective parce qu'il ne trouve plus d'intérêt dans la littérature, et la question du fait divers que lui-même utilise pour faire son livre, il y a un truc de mise en abîme qui est finalement assez vertigineux, je trouve, à la fin, avec notamment ce compte rendu d'audience et l'utilisation des documents judiciaires. À mon avis, ça dit quelque chose aussi sur l'état de la littérature, sur le fait divers en particulier, et je trouve ça vraiment drôle de le lire après Delphine de Vigan.
Mais pour le coup, le nouveau détective, je trouve que c'est quelque chose d'un peu faible dans le livre, parce qu'il est très présent au début du récit, mais à peine utilisé, et puis comme ça il disparaît pour réapparaître à la toute fin. Mais bon, j'ai quelque chose pour le coup d'une piste qui n'a pas été suffisamment féconde pour moi. Raphaël Léris.
Moi, la troisième partie, donc celle un peu tendance nouveau détective fait divers, elle m'amuse beaucoup parce que je trouve qu'elle fonctionne à plein sur le mode de la satire. En revanche, la deuxième partie, qui est une scène de sexe interminable, où donc après avoir joué au chat et à la souris pendant
littéralement avec des masques,
littéralement il passe à l'action. Et on n'en sort pas, et on a une exploration endoscopique de Betty Book, si, une exploration endoscopique. Ouais. Et alors elle, je trouve qu'elle, pour le coup, la question du plaisir là, en ce qui me concerne, tombe un peu à plat. Oui. Voilà. Alors que la dernière partie au tribunal est plutôt plus amusante. Vous parliez à la fin d'une mélancolie de Frédéric Sériès. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de happy end plutôt, puisque finalement, on finit dans un équilibre. Non, on finit dans un équilibre où personne n'est châtié. L'équilibre, il y a une forme d'équilibre qui revient. Et c'est comme si Frédéric Sériès s'était dit je ne vais ni avoir une position décliniste ni insulter l'avenir. On va finir sur un mode mi-chèvre mi-chou.
Qui est aujourd'hui.
C'est assez mystérieux, la fin.
Ouais. On sait pas. Sinon, trop, je vais raconter la fin de Delphine de Vigan, méfiez-vous, Raphaël. Laurent Nunez.
Non, on peut. C'est un peu mieux quand même qu'un petit livre.
Petit livre. Lecture plaisir, c'est pas du tout péjoratif.
Non, mais y a un vrai travail.
J'aimerais souvent que ce soit plus souvent le cas.
Il y a un vrai travail sur la signification des œuvres, et notamment sur la dualité entre la profondeur et la surface. Cette fille est entièrement de la surface, et il essaye de la montrer en profondeur, à ses risques et périls. Et c'est ce qui se passe très bien lorsqu'à un moment il perd. L'un des grands intérêts du livre, c'est à un moment il perd un manuscrit. Extrêmement important, et il n'en connaît que la surface, et il va essayer de le décrire tant bien que mal. Ça va faire hurler tout le monde jusqu'à temps que l'auteur révèle qu'en fait il a bien,
il a peut-être bien lu,
voilà,
son, ouais,
livre. Il a bien lu, et que donc c'est lui, et donc la surface, c'est la profondeur. Mmh. Voilà, il y a quelque chose d'assez malin là-dedans. Il faut le relire peut-être en se demandant et en évacuant les rires qui sont comme un mur à la pensée.
C'est quoi ? Il n'y a rien de plus profond que la peau, hein, c'est ça ? Paul Valéry ?
Paul Valéry,
me semble-t-il. Boris Pinot.
Un mot d'Amandine Schmitt sur Twitter. On tient déjà l'Inkipit le plus percutant de 2018. Ah, et toujours sur Twitter.
C'est Norman.
Ah oui, c'est Norman, oui. Enfin, c'est le jour des funérailles de Norman, suivi en direct dans le monde francophone, à la télévision et sur le web, à l'égal de celle des plus grands chefs d'État. Il faut savoir qui est Norman dans ces cas-là. Boris.
Et un autre message, toujours sur Twitter, de Johan Moga. Comme pour ses autres romans, Frédéric Sirieze sait nous mener là où on ne l'attend pas. Super moment de lecture.
Bon, on s'arrête sur ces commentaires pour avoir parlé de Betty Book de Frédéric Sirieze, publié chez Vertical.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute littéraire, Faire mouche de Vincent Almendros, et pour faire connaissance cette fois avec Laurent Malèvre, né à Saint-Fourneau en Auvergne, qui revient contre-cœur pour assister au mariage de sa cousine Lucie. Mais la famille, pour lui, on va le voir, n'est pas vraiment un havre de paix. Un peu de bourré, auvergnate. Parce que oui, ça se passe en Auvergne, comme on va le découvrir au tout début de ce livre, qui commence ainsi. J'avais été jusque-là un homme sans histoire. Peut-être parce que j'étais né dans un village isolé au milieu de rien. Car c'était ça, Saint-Fourneau, un trou perdu. Y revenir m'avait toujours paru compliqué. Faut dire que ma mère, elle, y vivait encore. Nous venions, Claire et moi, de quitter l'A75. Le soir était tombé, les phares de la Nissan éclairaient maintenant la départementale en lacet. Depuis plusieurs kilomètres, nous ne croisions plus aucune voiture. Le paysage était devenu escarpé et montagneux, composé d'apics ou de reliefs rocheux boursouflés de végétation. Il se vallonna de nouveau et les premiers panneaux indiquant Saint-Fourneau apparurent. Et c'est la voix de Laurent Nunez qui va apparaître, pour commencer à apparaître ce livre, Faire mouche.
Ouais, le narrateur est Laurent. Je suis très content de parler de ce livre parce que moi, c'est un livre qui m'a emballé. C'est-à-dire que,
un narrateur
me dis
qui s'appelle Laurent.
C'est ça. C'est mon ego. Donc je me dis que peut-être en parlant, le plaisir de la lecture va redoubler. C'est un livre d'une précision. C'est un livre. Il y a des bonheurs d'écriture dans ce livre qui sont assez incroyables. L'histoire est à la fois très simple et en même temps assez complexe. C'est le genre de livre où on peut presque rien dire de ce qui se passe, alors on gâche tout. C'est Laurent qui revient.
On va se débrouiller comme on peut.
Laurent revient dans le village de voir ses parents, voir sa mère en tout cas. Il est accompagné de Claire, mais il tient à ce qu'on appelle Constance.
C'est expliqué assez tôt dans le livre.
Mais ça donne des phrases assez drôles. Voilà, c'est une phrase très drôle parce qu'il s'approche de Claire, il dit bonjour à Constance.
Oui.
Voilà, ça va à peu près 10 fois dans le livre.
Beaucoup mieux écrit, hein, excusez-moi, mais c'est pas du tout contre vous que je dis ça.
Et donc, vous voyez très bien, donc c'est-à-dire que
absolument,
il y a un talent d'écriture qui ne passe pas quand c'est moi qui le fais.
Mais vous écrivez très bien aussi, Laurent.
Merci. Chez Vincent Almendros,
je lui désignais Claire de la main, je te présente Constance, dis-je.
Voilà,
je cite. Hein.
Oui. Avec une utilisation du passé simple, génial. C'est un livre On dirait un film de cinéma. C'est entre, vous savez, Harry, un ami qui vous veut du bien. Ça ressemble à ça. Et l'ambiance, c'est parfois, ça ressemble au Renard dans le nom de Richard Millet, sans le côté nauséabond de Richard Millet. C'est un livre vraiment, moi, qui m'a emballé. C'est cet homme revient avec cette femme. Est-ce qu'elle est son amie? Est-ce qu'elle est qui est-elle? Elle est enceinte. Il revient, mais il veut voir que son oncle, qui a un rapport assez spécial avec sa mère, et il veut voir sa Lucie, sa cousine, qui va se marier.
Ouais, il a pas très envie de la voir, Lucie, non plus.
Non, mais il va la voir en tout cas.
Oui. Bah, c'est son mariage.
J'hésite. Je dis est-ce que je raconte?
Non.
Pas, je raconterai. Mais disons que on est emmené, on est happé dans une intrigue jusqu'au bout. On croit qu'on a compris à la fin. On pense notamment, je le dis parce que c'est ce qu'on pense, c'est comme c'est faux, je peux le dire.
Par exemple, c'est faux, il faut pas le dire. Vous allez gâcher le voyage.
Je suis embêté.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Non, mais...
Allez, Raphaël Léris, à vous pour enchaîner. Mais je reviendrai vers vous, Laurent Nunez.
Alors moi aussi, j'ai beaucoup aimé Faire Mouche, qui aurait pu s'appeler Refaire les Mouches de Sartre. Ah, si, puisque c'est très clairement inspiré d'eux. Donc, il y a l'exergue hein, qui nous aide.
Il y a des souvenirs qu'on ne partage pas.
Voilà, qui était une citation. Il y a aussi donc cette dimension de tragédie en trois actes. Voilà. Et là où Oreste, qui s'appelait dans Les Mouches Phileb, parce qu'il se faisait appeler Phileb, je crois.
Laurent, sans doute. Non.
Ou Laurent, c'est ça.
C'est un bon personnage.
Dans Les Mouches, bon, bah là, c'est donc Claire Constance qui est à l'œuvre. Et donc là, voilà, c'est un livre sur les Atrides, mais les Atrides de Saint-Fourneau. Et donc, ça nous donne un indice assez clair sur l'extraordinaire violence familiale à l'œuvre dans ce texte qui, par ailleurs, et en surface extraordinairement calme, même s'il s'y passe des choses, enfin en tout cas il s'y raconte des choses du passé atroces. Des histoires d'empoisonnement, des morts suspectes, des liens du sang compliqués. Et voilà, et tout nous est révélé au fur et à mesure avec un talent effectivement pour l'attention et une manière de nous dire les choses qui est extrêmement originale et forte, enfin, extrêmement originale et en même temps très minuit. Enfin, il y a un tampon minuit, il y a quand même un côté frère d'Yves Ravet. Chez Vincent Almendros, qui est assez marquant. Il y a une autre chose donc, moi, qui m'a beaucoup plu et qui tire du côté du théâtre sur un mode un petit peu amusant, qui est donc son rapport au dialogue. Vous citiez « Je dis Niclaire de la main, je te présente Constance, dis-je » ou « Tout va bien, exagérais-je »
Oui, j'adore ça. « Tout va bien, exagérais-je » Je l'avais coché aussi un peu pour le faire entendre. C'est voilà, tellement bien.
Il y a une manière de mêler les dialogues et le discours indirect qui est assez merveilleuse et qui fait de ce texte effectivement un très grand plaisir de lecture, même si on étouffe absolument à Saint-Fourneau.
Oui. « Tout va bien, Laurent. » Oui, exagérais-je, pour être tout à fait précis dans la citation. Lucille Como, avec Vincent Almendros.
Oui, alors je suis moins enthousiaste. Les effets de suspens sont certes efficaces, mais reposent quand même beaucoup sur la curiosité, qui est une curiosité assez, pour le coup, assez primaire pour les secrets de famille. Et finalement, ce n'est un peu que ça. J'ai été presque déçue parce que cette question des secrets de famille, bon, on la perçoit assez vite. Et finalement, ce n'est que ça. Ce qui m'intéresse en revanche, oui, un peu. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est que c'est un roman du retour chez soi. Et on sent très vite qu'il y a eu une coupure de l'ordre sociologique et culturel qui s'est opérée entre ce personnage et son milieu. Or, ce qui est intéressant, c'est que au lieu d'être un roman de la coupure, c'est un roman de la suture en fait. C'est-à-dire que la coupure s'efface au fur et à mesure. Et de ce point de vue, pour le coup, je trouve ça très intéressant parce que c'est presque à rebours de ce qu'on lit dans des romans un peu classiques. Moi, ce qui me dérange un peu et que je trouve parce que je le trouve très systématique, c'est la question de la saleté, qui est une question liée au titre d'ailleurs, aux mouches, qui revient de manière permanente dans le texte, qui produit vraiment un dégoût physique, qui pour le coup c'est très efficace. Hein. C'est un texte qui produit un dégoût physique. Les descriptions de lieux, la poussière dans la chambre, la description des eaux du lac dans lequel se baigne le personnage de Claire, dans lequel se baigne le personnage de Claire, qui est boueux. Et je trouve qu'on voit un petit peu trop la ficelle de la métaphore de la boue à l'extérieur, la boue à l'intérieur. Et de la même manière que le titre est une expression figée, j'ai l'impression que le texte joue beaucoup à la littéralisation des métaphores, faire mouche, j'en ai noté d'autres, mais j'avais vraiment, voilà, remuer la boue, écorcher vif, enfin, tout ça est littéral dans le texte et c'est presque un fonctionnement du récit qui devient un peu systématique. C'est-à-dire que moi, les mouches, je les ai notées et, et on les voit à chaque moment crucial du livre arrivé. Donc, quand il y a le fameux repas, il y a les mouches mortes dans la chambre à l'arrivée. Puis après, il y a les mouches qui sont sur le collant, qui pend au-dessus de la table du repas, du premier repas qu'on prend avec la mère. Tout ça est un peu fléché et du coup un peu systématique. Moi, ça m'a fait penser au roman naturalisme, au premier roman naturaliste, à Thérèse Raquin, par exemple. J'ai beaucoup pensé à Thérèse Raquin en le lisant, parce que dans Thérèse Raquin et dans ce roman-là, qui est très fléché aussi, il y a beaucoup ça, cette espèce de reflet entre l'extérieur et l'intérieur, avec une visée moralisatrice évidente. Et moi, j'ai un peu l'impression que dans Faire Mouche, il y a aussi ce type de fonctionnement qui ferme beaucoup le récit jusqu'à la révélation finale, que moi, personnellement, j'attendais vraiment, j'avoue.
Ben, j'avoue que moi non, donc on pourra pas en parler davantage ici parce que il y a différents sujets justement dans ce livre-là. Moi, c'était vraiment un coup de tonnerre que cette toute dernière phrase du livre de Vincent Amadros, Faire Mouche. Sur la saleté, il y a aussi quelque chose pour le coup très, alors vous dites naturaliste, mais très réaliste. Ce que c'est que vivre deux personnes âgées qui sont les derniers habitants d'un hameau situé à 5 km d'un tout petit village. Je ne dis pas que ce soit le cas dans tous les cas de figure, mais en tout cas, ça ressemble quand même à quelque chose de la ruralité profonde. Que j'ai eu l'occasion d'arpenter à de nombreuses reprises. Voilà, j'ai eu beaucoup d'images de beaucoup de lieux que j'ai pu visiter dans ma longue vie. J'aimerais revenir sur les dialogues à l'instant, parce que moi, je suis plutôt, vous l'aurez compris, du côté de Laurent Nunez et Raphaël Deriz. Moi, j'étais tout à fait admiratif de ce livre que j'ai eu la chance de lire d'une traite. Je n'ai pas du tout été interrompu, donc ça, j'étais heureux. Qui se tient vite, pas une heure et demie, quelque chose comme ça. Mais la première fois qu'il revoit sa mère, j'ai ouvert à cette page, je vous lire simplement les paroles de la mère. Ça commence par « Tiens, un revenant. Éclair, on n'y voit rien. Alors, tu nous apportes la pluie. Tu en fais une tête. Tu n'es pas content d'être ici. Tu aurais préféré ne pas venir. » Enfin, voilà. Bon, il y a du texte de Vincent Amadros, tout ça, mais il y a quelque chose d'impitoyable, d'absolument terrible, que je trouve glaçant et d'une justesse folle. Raphaël Leris.
Moi, j'avais juste envie de dire « Quoi ? Vous n'aimez pas la langue ? Ma mère attendait un couteau à la main.
» Oui, c'est bien aussi, parce que vous avez rajouté le texte qui est hors dialogue, Laurent Nunez.
Ouais, non, c'est vraiment un livre remarquable parce qu'en fait, c'est un livre qui est plein de choses trappes. Par exemple, vous savez, il y a un sens de la mouche parce que c'est évident qu'il a dû cataloguer tous les sens de mouche,
sûr, faire oui,
mouche
oui,
et tout, et il les a reproduits. Il les a en tout cas symbolisés dans le livre. Il y a un sens, vous savez, que se faire une mouche, c'est se faire une sorte de grain de beauté dans l'Ancien Régime, se faire un grain de beauté pour que la blancheur de la peau apparaît. C'est donc se concentrer sur quelque chose pour pouvoir le reste. Et c'est ce qui se passe dans ce livre. On se concentre sur le passé, on regarde, on attend et on oublie. Et on découvre à la fin que ce qui compte, c'est le présent.
On va dire ça comme ça, pour ne pas trop divulgâcher. Commentaire, Boris Spino sur le net.
Gozer sur Twitter parle d'un texte court tout en finesse où chaque mot a son importance, comme dans le précédent roman d'Almendros. Et toujours sur Twitter, Dominique Sud réécrit sur un roman intense et noir qui vous embarque dès les premières lignes.
Ouais, j'ai été tout à fait embarqué, ça n'a pas été votre cas. Lucille Comeau, non. Vous faites une petite moue.
Non, je trouve que c'est très très bien fait.
Mais fait, je sais, au voilà, sens de la fabrication.
La facture, ouais, d'accord. Très bonne facture.
Dernier mot, Raphaël Leris. Moi, je trouve qu'il fait mouche.
Mais voilà, c'est le problème, c'est qu'on essaye de s'interdire de dire
ouais,
ça.
Bah, bon, comme ça, c'est fait. Écoutez, on l'aura dit. Faire Mouche, Vincent Amadros, aux éditions de Minuit. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et Louise Michon est avec nous cette semaine et va nous donner d'abord la question du jeu d'hier, suivie de sa réponse qui sera assez pratique, Louise.
Où est-ce que le court-métrage « Leif Hogg d'Audi Henry Darger », qui signifie « Vie et mort d'Henri Darger », réalisé par Bertrand Mandicot, a été tourné? Et la réponse était en Islande.
Et oui, c'était de l'Islandais. À gagner ce soir, des invitations pour la double inconstance, ou presque, d'après Marivaux, mise en scène par Jean-Michel Rabeux. Les places à gagner pour la représentation du lundi 5 mars à 20h, c'est au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Donc du coup, les auditeurs de la dispute auront très peu de temps pour faire leur choix, parce qu'on en parle lundi soir, entre 19h et 20h, forcément. Quelle est la question, Louise ?
Quel néologisme inventé à partir du nom de Marivaux rend hommage à son style littéraire et définit le dialogue amoureux ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain. Les commentaires, vous pouvez les poster tout de suite sur la page Facebook La Dispute FC. Ou à moins que vous n'attendiez aussi ou préfériez suivre le compte Twitter Dispute FC pour y déposer vos commentaires. Demain, 19h, en direct, en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Dispute Cinéma, en compagnie de Muriel Joudet, Philippe Azouré et Julien Gester, et à notre affiche Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot et Lady Bird de Greta Gerwig.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Je faisais partie d'une bande.
France Culture présente Les Garçons Sauvages, un film de Bertrand Mandicot.
Unis pour le meilleur et surtout pour le pire.
Début du XXe siècle. 5 adolescents de bonne famille commettent un crime sauvage.
Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé.
Repris en main par le capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un voilier, les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer.
Où sommes-nous, capitaine ?
Les Garçons Sauvages, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Et votre soirée sur France Culture, de quoi se compose-t-elle ? Eh bien, à 21h, Marie Riche reçoit la danseuse et chorégraphe Lenio Caclea, dans Par les temps qui courent. Aude Lavigne, elle, reçoit Barbara Soyer pour sa revue de dessin de Drawer, à 20h55. Et puis 20h30, fiction de France Culture, quatrième épisode de Stephen King on the Radio de Christophe Fiat, réalisé par Laure Egoroff.